Chers amis, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus au lancement du livre d'Étel Groffier sur Jacques Peuchet. Et je vais tout d'abord passer la parole à Josiane Bouladaïoub, qui, non contente d'être titulaire de la chaire UNESCO, des fondements.
Des fondements du droit
et de la démocratie, est également directrice de la collection Mercure du Nord, dans laquelle l'ouvrage paraît, et lui demander de nous présenter l'auteur.
Très volontiers. J'ai le plaisir donc, et l'honneur de vous présenter mon ami Étel Groffier, qui est chercheur émérite de l'Université McGill à la faculté de droit. Étel Groffier est non seulement une éminente juriste, mais une 18e-iste tout à fait éclairée. Juriste, elle a fait des études de droit à l'Université de Bruxelles. Elle a travaillé comme chercheur à l'Organisation internationale des employeurs à Genève, puis son doctorat de droit en droit de l'Université McGill l'a conduite au professorat. Elle a enseigné à l'Université McGill pendant 25 ans et quelques. Mais parallèlement, et c'est là qu'intervient le 18e siècle, elle a participé à la révision du Code civil du Québec, ce qui l'a amenée à approfondir l'idéologie révolutionnaire qui a présidé à l'adoption du Code civil français, dont le Code civil du Québec est directement dérivé. Étel Groffier est l'auteur d'une dizaine de livres, de nombreux articles dans le domaine du droit, de la lexicographie et de la terminologie, notamment le livre « Droit international privé du Québec » en deux volumes avec Gérald Goldstein, chez Blais à Montréal, 1998 et 2003. C'est un ouvrage qui a remporté le prix du barreau du Québec et de l'Association du barreau canadien. Ses recherches en terminologie ont conduit Étel Groffier vers la traduction. Membre de l'Ordre des traducteurs du Québec, de l'Association des traducteurs littéraires du Canada, pendant une vingtaine d'années, elle a publié de nombreuses traductions. C'est un travail, très ingrat, mais tellement utile pour faire connaître et diffuser la pensée des uns et des autres mutuellement. Elle a publié de nombreuses traductions dans les domaines juridiques et philosophiques. Et là, elle retourne, après sa retraite au XVIIIe siècle, elle n'a pas vraiment quitté. Elle publie le Stratège des Lumières, le Comte de Guibert, en 1743-1790, chez Champion. En 2005, vous vous rappelez, je crois que Étel Groffier, on avait lancé ici même le conte de Guibert, et qui est entre autres la mort de Mademoiselle de l'Espinasse. Mais enfin, ce n'est pas ses titres de noblesse les plus grands. Elle a publié dans la collection verbatim de la chaire le statut juridique des minorités dans l'Ancien Régime, dans un autre domaine avec Raymond Klibanski, « Idées sans frontières, histoire et structure de l'Institut international de philosophie, les belles-lettres, 2005 ». Vous savez comment le regretté professeur Klibanski était à l'origine de l'Institut international de philosophie, qui décline de plus en plus, depuis qu'il a lâché son énergie. Alors, oui, je pense que ce 28e volume de la série chez Mercure du Nord, figure en bonne place dans cette collection qui se veut le point de rencontre des chemins multiples arpentés par la philosophie de concert avec les sciences humaines et sociales, l'économie politique ou les théories de la communication. Et la collection ne saurait atteindre son but qu'en accueillant des textes qui, comme ceux d'Étel Groffier, a su brillamment nous donner qu'Étel Groffier a su brillamment nous donner des textes qui se penchent sur l'histoire sans laquelle les concepts véhiculés par notre temps seraient inintelligibles, montrant dans les pensées nouvelles les infléchissements d'un long héritage. Alors, nous allons, je vais m'arrêter, puisque Ethel Gruffier va s'entretenir de Peuchet et du livre et des nombreuses activités de Peuchet sous la brillante férule de Marc Angenot, qui lui aussi, non content d'être titulaire de la chaire...
James McGill.
Vous aussi, c'est très long.
Oui, c'est long.
En littérature comparée, est un auteur au titre de gloire de nos collections. Verbatim et Mercure du Nord.
Alors, merci Josiane. J'ai un grand avantage sur vous tous, mais je suis sûr que vous l'aurez bientôt. J'ai lu le livre de Tel Groffier et je l'ai lu avec un grand plaisir, un grand intérêt. Je vais essayer de dire pourquoi avant de lui poser toutes sortes de questions plus ou moins indiscrètes que j'ai préparées. Je ne dirais pas que le livre se lit comme un roman, ce serait fâcheux pour un livre d'érudition, mais il se lit avec un très grand intérêt et un intérêt soutenu par la personnalité de Peuchet. On va en parler dans une minute. Jacques Peuchet est un homme sympathique, attachant, touchant, par plus d'un côté, et justement parce qu'il est un réformateur. Mais avant de parler de Peuchet, je voulais vous demandez tout simplement, Peuchet était notamment l'auteur d'un mémoire tiré des archives de la préfecture de police, et une partie de son œuvre est liée à la naissance de la police moderne. Donc je vais vous poser des questions policières qui consisteraient d'abord à vous demander: où avez-vous rencontré Peuchet et combien d'années avez-vous passé avec lui?
Bien, j'ai rencontré Peuchet tout à fait par hasard. Je m'intéressais au droit dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Or, il y a beaucoup d'études sur cette encyclopédie, mais sur la musique, dans l'encyclopédie, la médecine, la littérature, etc. Et il n'y a pratiquement rien en droit. Alors, j'ai commencé à lire les articles de l'encyclopédie. J'ai trouvé que le chevalier de Jaucourt était un bon réformateur et je me suis demandé s'il y avait une influence de l'encyclopédie. Alors, je suis remontée à travers les juristes et les philosophes jusqu'à l'encyclopédie méthodique. Et l'encyclopédie méthodique est un immense ouvrage, il y a 200 et quelques livres, qui a été entrepris par Panckoucke. Panckoucke était le premier magnat de la presse. Il avait eu la brillante idée de prendre l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert et de la découper et d'en faire des dictionnaires par matière. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est alphabétique d'un bout à l'autre et celle de Panckoucke est alphabétique, mais à l'intérieur des dictionnaires. Alors, je me suis dit, mais j'aimerais bien étudier certaines choses, notamment ce qu'on dit de l'esclavage, et je me suis rendu compte que lire la jurisprudence ne suffisait pas. Parce qu'il y avait beaucoup de dictionnaires, il fallait aller dans l'économie politique, dans la philosophie, même dans la géographie. Et c'est difficile d'acquérir cette encyclopédie, elle n'existe plus dans le commerce, mais j'avais trouvé qu'un éditeur allemand avait toutes les fiches, les microfiches. J'ai acquis les microfiches, et puis voilà que le professeur Josiane Bouladayou me dit « Ah, mais c'est extraordinaire, on va faire quelque chose, on va mettre des textes sur Internet, et vous allez vous occuper de la jurisprudence. » Et « Ah bon, bien. » Alors j'ai commencé à regarder le dictionnaire de jurisprudence, qui n'est pas mauvais, il y a beaucoup de compilations. Je suis arrivée aux deux derniers volumes. Et les deux derniers volumes s'intitulent « Dictionnaire de police et de municipalité » et sont écrits uniquement par Peuchet. Or, j'ai trouvé que ça se lisait fort bien, que le discours préliminaire était plein de projets de réforme de l'État, de l'enseignement, de la police, du gouvernement. Je me suis dit, mais il est intéressant, ce bonhomme. Et alors, j'ai commencé à creuser. Vous savez, quand un chien cherche un os, là, bon, il creuse. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu ses autres œuvres. Alors, combien de temps j'ai passé avec Peuchet? Peut-être 2 ans et demi.
Bien, je vous remercie. Je ne vais pas conserver ce ton d'inspecteur de police très longtemps, mais enfin, je constate que dans le prière d'inséré, il y a au moins deux individus du 19e siècle. Là, il faudrait préciser, pour ceux qui n'ont pas encore lu même la page de titre, que Peuchet, s'il est un encyclopédiste à coup sûr, et comment on va le... Je vais essayer de le faire dire à Ethel Groffier, un esprit réformateur tous azimuts. Il suffit de voir sa date de naissance. C'est un homme qui a 30 ans à la Révolution, autrement dit, dans une large mesure, son œuvre se développe et continuellement sous la Révolution, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Et le pauvre meurt quelques semaines après les Trois Glorieuses, au début de la monarchie de Juillet. Donc c'est une œuvre qui va essentiellement de la Révolution, n'est-ce pas, à la monarchie de Juillet. Exactement. Mais là, il y a deux noms qui sont cités de gens qui ont rencontré Peuchet. C'est Alexandre Dumas et Karl Marx. Alors, Alexandre Dumas, je comprends pourquoi. Je sais pourquoi, car moi aussi j'ai rencontré Peuchet il y a 30 ans en lisant les mémoires tirées des archives de la préfecture de police, parce que je m'étais fait indiquer que c'était la mine d'or dans laquelle tous les romanciers populaires du 19e siècle ont puisé des sujets d'intrigue. On peut dire que Peuchet a compilé, vous allez nous l'expliquer, ces mémoires tirées des archives de la préfecture de police. Et vous avez là tous les sujets de romans policiers du 19e siècle, donc Dumas qui avait une tendance à piller et à trouver ses biens où il pouvait. Par contre, Karl Marx, là, ça mérite une question sérieuse. Qu'est-ce que Karl Marx vient faire comme lecteur de Peuchet ?
Eh bien, Karl Marx s'intéressait évidemment aux réformateurs. Et Peuchet, dans ses mémoires tirées des archives de la police, qui lui appartiennent, disons, en partie. Il avait commencé, avant de mourir, d'écrire ses mémoires, mais comme il n'avait pas fini, elles ont été trafiquées par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il avait commencé à parler du suicide. Et comme Peuchet, qui avait été officier de police et qui s'était beaucoup intéressé à la pauvreté, il avait gravi beaucoup, beaucoup d'étages pour aller nourrir les gens en temps de famine, etc. Il connaissait très bien le domaine du suicide et il explique que le nombre de suicides augmente avec la pauvreté, avec les crises, avec les famines, etc. Mais il dit aussi que malgré cela, il y a un certain nombre de femmes qui se suicident, même dans la bonne société, même chez les gens riches, et c'est parce que les femmes sont maltraitées et n'ont pas de voix au chapitre, si vous voulez. Et Karl Marx a repris ça. Et Karl Marx, ce qu'il a fait, il a pris tout le chapitre de Peuchet sur le suicide et il l'a plus ou moins intégré dans son œuvre à lui en le citant presque littéralement, mais en intercalant des phrases à lui.
Alors c'est passionnant, au fond le pauvre Peuchet a été pillé par tout le monde, on va essayer de comprendre pourquoi. Je pense que le mot-clé, sans doute encyclopédiste, mais le mot-clé est réformateur. Souvent, vous allez nous le montrer, extrêmement perspicace, parfois en avance sur son temps. Vous venez d'aborder la question du suicide et indirectement la question de la réflexion sur les femmes et sur la condition des femmes. Dans le même temps où Rétif de la Bretonne réfléchit sur les femmes en écrivant un essai qui s'appelle « Le pornographe » et une étude de la prostitution et « Le gynécographe », qui est au moins une réflexion sur les femmes. Mais il y a un Peuchet qui a des idées sur comment émanciper les femmes, d'abord il a une critique de leurs conditions et des idées sur qu'est-ce qu'il faudrait faire.
Eh bien, Peuchet, au tout début de la Révolution, lorsqu'il y a une municipalité de Paris avec Sylvain Bailly, l'astronome, qui est le premier maire de Paris, Peuchet est administrateur de police. Et il y a un département de la police dans lequel il y a plusieurs personnes, mais lui est en charge des filles publiques, entre autres choses. Alors, évidemment, il connaît la question de première main, si l'on ose dire, et comme il était un homme très, très indulgent, il s'élève contre le fait que, dans l'Ancien Régime, on considérait les mendiants et les filles publiques comme des délinquants. Alors, quand il y avait trop de mendiants, périodiquement, on les rentrait à ce qu'on appelait l'hôpital, qui était en fait une prison, pour s'en débarrasser, pour qu'on ne les voit plus. Et on faisait la même chose avec les filles qu'on envoyait à la salpêtrière. Il y a d'ailleurs un tableau assez célèbre où on voit dans un chariot toutes les filles qu'on emmène à la salpêtrière. Alors, il s'élève évidemment contre cette façon de faire, et ça l'entraîne à une réflexion sur les femmes et sur les enfants qui est très, très progressiste. Parce que pour les femmes, il dit que les mères et les pères doivent avoir exactement les mêmes droits, que la mère doit avoir les mêmes droits sur les enfants que le mari, qu'ils doivent être tout à fait égaux dans le ménage, et que les femmes qui ont des enfants illégitimes doivent être respectées comme les mères légitimes. Et alors, ce qu'il voudrait, c'est avoir des endroits où les filles qui attendent un bébé et qui ne sont pas mariées peuvent aller accoucher en paix. Il s'élève contre la pratique dans la bourgeoisie de l'Ancien Régime, lorsqu'une fille avait fauté, de la mettre à la porte. Et cela l'entraîne aussi à parler des enfants. Et pour lui, tous les enfants devraient avoir les mêmes droits. Et je vous ferai remarquer que ce qu'il veut est ce que nous avons maintenant, et ce qui est récent est ce qu'on a mis à peu près 200 ans à avoir. C'est-à-dire que l'enfant a tous les droits vis-à-vis de sa mère, parce que la maternité est facile à prouver, donc il peut hériter ce qu'on ne pouvait pas faire dans l'Ancien Régime. Il porte son nom, il a droit des aliments, etc. Et il a tous les droits vis-à-vis du père, si le père est connu, s'il est reconnu par le père. Ce qui est exactement notre législation à l'heure actuelle.
Oui, alors ça c'est passionnant. Je vous le disais, je trouve, peut-être que ça va de soi, Peuchet est extrêmement touchant et sympathique, parce que d'une certaine manière, à travers tous ces changements de régime, etc., c'est un homme qui ne fléchit pas, qui semble n'être pas accessible. Je pense que c'est un homme qui était souvent besogneux dans sa vie et qui a un peu tiré le diable par la queue. Une partie de son œuvre est du travail de librairie. Mais c'est un homme qui ne fléchit pas sur un certain nombre de grands principes. Et ça, et certainement qui les soutient à travers une œuvre extrêmement complexe. Est-ce que je peux vous demander encore, justement, sur la condition des femmes, quelles sont ces propositions précises ?
Bien, ces propositions, comme je l'ai dit, c'est l'égalité totale. Mais, là où il ne va pas tout à fait, là où nous pensions qu'il aurait dû aller, il n'est pas en faveur des études pour les femmes. Et cela, c'est parce qu'il est fortement influencé par la médecine du temps. Peuchet avait commencé par faire des études de médecine, puis il a bifurqué et il est devenu avocat. Or, il est influencé par des auteurs comme Roussel, par exemple, ou Viret, Moreau de la Sarthe, Cabani, qu'il connaissait d'ailleurs, et qui pensaient, et on pensait à l'époque, que la femme était complètement conditionnée par sa physiologie, et que si elle faisait des études, si elle s'occupait de choses abstraites, eh bien, ça réduirait ses capacités de maternité, ses qualités pour élever les enfants. Alors, mais c'était une doctrine qui était complètement acceptée à l'époque. Mais Peuchet était tout à fait en faveur des droits civils pour la femme. D'ailleurs, très peu de temps après qu'il a écrit, le divorce a été reconnu et le divorce était donné aux femmes comme aux hommes, ce qui n'existe plus dans le code civil.
Non, C'était un divorce par consentement mutuel ?
Ça pouvait être un divorce par consentement mutuel ou ça pouvait être un divorce pour cause.
Oui, oui, oui. Ah, mais écoutez, c'est... Bon, enfin, par rapport... Il y a d'autres réformateurs de la condition des femmes. Il y a Condorcet, il y a Olympe de Gouges, etc. Vous le situez comme quelqu'un de tout à fait perspicace dans ce contexte.
C'est ça, parce qu'il est très pratique. Met ces réformes sous forme de petits projets de loi et il voudrait que cela se réalise, surtout pour les enfants, parce que pour les enfants, il va plus loin, il veut beaucoup diminuer la puissance paternelle. Et il trouve que les enfants sont beaucoup trop tributaires de leurs parents et il dit par exemple que lorsque les enfants sont en âge de s'aimer, eh bien, il faut les laisser se marier. Il ne faut pas demander le consentement des parents. Les parents, de toute façon, tout ce qui les intéresse, c'est des questions d'argent. Donc, il faut que les enfants soient libres de s'aimer. Mais tout cela va dans le cadre d'une lutte contre les abus. Ouais. Parce que ce sont les abus des pères contre leurs enfants, mais ça s'inscrit dans une lutte contre oui. tous les abus de la société. Oui. Et Peuchet, oui. comme d'ailleurs Condorcet, énumère les abus du roi, les abus des ministres, les abus des prêtres, les abus de l'administration. Et il a un article absolument intéressant sur la oui. bureaucratie. C'est lui l'inventeur... Oups. C'est lui l'inventeur du mot bureaucratie.
Qu'il écrit autrement, du reste.
Qu'il écrit, oui, qu'il écrit avec un O. Il écrit avec un O. Et là, il est prophétique. Il y a un dernier abus qu'il prévoit, c'est l'abus du pouvoir du peuple. Parce qu'il dit, si le peuple arrive au pouvoir et exerce le pouvoir lui-même, pas par représentant, mais lui-même, il va s'enlacer. Et s'il s'enlace, eh bien, il voudra un chef. Or, il y avait quelque part dans une école militaire un petit officier corse qui a peut-être entendu, mais qui a réalisé la prophétie de Peuchet en déant les 10 ans.
Oui, oui. Mais écoutez, c'est justement le premier, enfin, après une biographie qui... on n'a pas beaucoup parlé de la vie de Peuchet, je ne suis pas sûr que j'ai envie de vous mettre sur ce terrain, parce que vous avez fait énormément de travail, de recherche, mais Peuchet est un homme discret qui n'a pas vraiment laissé de traces, en tout cas, il n'y a ni grande passion, ni maîtresse, ni drame
Il en a peut-être eu, mais il ne le dit pas.
Même les contemporains ne s'en sont pas rendus compte. ce qui est rare à l'époque, étant donné le côté, la tendance au cancan et aux anecdotes. Mmh. Mais bon... Peuchet, oui, bien avant qu'un Proudhon se mette à parler de tyrannie de la majorité, se rend compte qu'il peut y avoir une forme de despotisme qui peut sortir du peuple, alors qu'il a été tout au début de sa carrière un critique du despotisme des rois. Mmh. Oui. Autre chose, Peuchet est sensible, si je vois bien, à quelque chose qui est en train de naître, qui est essentiel à la modernité, qui est l'apparition de l'opinion publique, et même justement les moyens par lesquels on peut se servir de l'opinion publique pour lutter contre les abus.
Oui, c'est un théoricien de l'opinion publique. Là, il n'est pas le premier, parce que Voltaire s'est magnifiquement servi de l'opinion publique. Ensuite, Necker a... un petit peu théoriser l'opinion publique et Peuchet comprend quelle est la force de l'opinion et il pense que si un grand nombre de personnes, mais de personnes éduquées bien entendu, ce n'est pas nécessairement le peuple, mais c'est le peuple qui, les gens qui pensent si vous voulez, s'ils ont un avis, eh bien, et qu'ils le disent, finalement le pouvoir doit en tenir compte. Ça, c'est l'idée. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que pendant la Révolution et surtout sous l'Empire, on allait se servir de l'opinion publique, se servir de ce qu'on appelait alors l'esprit public pour amené le peuple à accepter Napoléon. Et je ne peux pas résister à vous citer un petit passage d'un catéchisme, le catéchisme sous Napoléon, qui avait été rédigé par l'abbé d'Astros. Alors, demande: quels sont les devoirs des chrétiens à l'égard des princes qui les gouvernent, et quels sont en particulier nos devoirs envers Napoléon Ier, notre empereur? Réponse: les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en particulier à Napoléon Ier, notre empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de son trône. Demande: que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leurs devoirs envers notre empereur? Réponse: selon l'apôtre saint Paul, ils résisteraient à l'ordre établi de Dieu, mais même se rendraient dignes de la damnation éternelle. C'est ce que sous Napoléon, on enseignait aux petits-enfants. Alors Peuchet, qui assiste à ça, eh bien, va faire une critique subtile et discrète, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver en prison, de la police de l'empereur et du directoire d'ailleurs aussi, parce que c'était une police absolument aussi implacable que ridicule. C'est la police de Fouché. Oui, oui. Et Peuchet va lutter pour la vie privée. C'est son leitmotiv. Il ne veut pas de sanctions avant le délit, c'est-à-dire que dès la Révolution, il commence à dire « mais il ne faut pas empêcher l'émigration ». On peut punir les émigrés qui se retournent contre la France, mais on ne peut pas les empêcher de partir, parce qu'ils n'ont encore rien fait. Alors, on ne peut pas faire des descentes la nuit dans les hôtels, etc., parce que les gens n'ont rien fait. On peut le faire s'il y a eu crime. Et c'est le leitmotiv de toute sa critique de la police, de l'Empire, et ce sera aussi sa critique de la censure.
Oui, alors c'est le moment, malgré tout, de poser la question: comment est-il passé à travers la terreur, passé à travers le directoire, le consulat, l'Empire, s'est retrouvé, parce que c'est vrai que Fouché, qui est à la fois un jacobin et un autoritaire, et quand même tient la police de main de maître, il a été constamment proche de ses administrations policières. Comment est-il? Et il n'a effectivement, et c'est ça qui le rend si attachant, jamais varié dans ses principes, dans les principes libéraux et démocratiques qu'il soutient. Mais comment y est-il arrivé?
Bien, c'est une combinaison, à mon sens, de chance, mais aussi de grande modestie. Il n'a jamais eu de poste très élevé. Alors, il a d'abord été administrateur de la police, et cela a duré à peu près jusqu'en 1792. Et puis là, il s'est retrouvé en prison. Là, il y a eu de la chance, parce que quelqu'un, on n'est pas sûr que ce soit Condorcet ou que ce soit quelqu'un d'autre, l'a tiré de prison avant les massacres de septembre. Après ça, il est parti à la campagne, il s'est fait oublier pendant quelques années. Ensuite, il a été adjoint du ministre de la police pendant, au début du directoire, et puis il s'est fait limoger lors de Fructidor parce qu'il était trop gentil avec les émigrés. Alors, encore une fois, il s'est fait oublier pendant un certain nombre d'années. Ensuite, il a eu la grande chance, encore une fois, d'être récupéré par un mécène qui était le directeur de la régie des impôts indirects. Or, cet homme qui s'appelait Français de Nantes, c'est un écrivain totalement oublié, mais dont les livres se lisent avec beaucoup de plaisir, avait une grande administration. Alors, il s'est dit qu'il pouvait faire du bien, et il a récupéré certains écrivains qui avaient des difficultés. Il les a engagés et il n'avait pas grand-chose à faire d'autre que acte de présence et s'occuper de leur littérature. Il a ainsi sauvé un poète qui s'appelait François de Touche, où il lui a dit « Tout ce que je vous demande, c'est de venir, vous écrivez vos poèmes et vous ne partez pas avant l'heure. » Bon. Alors, cela a duré de 1805 à peu près à la fin de l'Empire, et ça lui a vraiment permis de se consacrer à ses autres œuvres, c'est-à-dire à la statistique, parce qu'il est devenu statisticien. Il a eu aussi la chance de rencontrer le ministre Chaptal, qui était un ministre intelligent, et il a aidé à créer la première statistique de France, et il a pondu, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, un immense ouvrage qui s'appelle « La statistique générale de la France ». Mais Peuchet était très intelligent parce que chaque fois qu'il faisait quelque chose comme ça, il faisait à côté un livre de vulgarisation. Et il a fait un petit livre sur la statistique élémentaire de la France pour les étudiants. Avant ça, il avait fini un travail de l'abbé Morellet et a fait un immense dictionnaire universel de la géographie commerçante, dont il a tiré un vocabulaire du commerce également pour les étudiants, pour les commerçants, etc. Alors, au point de vue travaux de librairie, il s'en tirait assez bien.
Oui, ça me paraît, si je comprends bien, vous venez de le rappeler, si Condorcet a sauvé la peau du malheureux Peuchet, il n'a pas évidemment pu se sauver beaucoup de lui-même mois plus tard. Mais bon, enfin, ça prouve que Peuchet était un homme habile, mais au bout du compte, peut-être il était déçu au bout de sa carrière.
Mais il était habile, mais seulement il était un modéré. Alors quand on est modéré, on déplaît à beaucoup de gens. Les révolutionnaires lui en ont beaucoup voulu parce qu'il est devenu modéré après quelques temps de la Révolution. Il était monarchien, c'est-à-dire en faveur d'une monarchie constitutionnelle. Et lors de la Restauration, les légitimistes, les royalistes, lui en voulaient très fort parce qu'il était modéré. Il n'a jamais renié son passé de révolutionnaire. Donc, il n'a jamais atteint des postes très élevés, même pas la petite sous-préfecture qu'il aurait tellement voulu avoir à La Rochelle.
Et ça aurait été sous la Restauration ?
Ça aurait été sous la Restauration, oui. Oui, à la fin du Directoire et sous la Restauration, parce que son patron ministre, qui s'appelait Monsieur Cochon de l'Apparent, était devenu préfet, et alors il se disait qu'il pourrait bien lui devenir sous-préfet étant donné qu'il avait été plus ou moins le numéro 2 du ministère.
Alors, je ne vais pas certainement traverser toute l'œuvre, vous le sentez, elle est foisonnante, elle est abondante. J'aurais eu des tas de questions, c'est un sujet qui a l'air austère, la statistique, mais je pense que c'est absolument essentiel dans l'histoire du 19e siècle, de voir l'émergence de la chose statistique. Par exemple, la prostitution chez parents du Châtelet, c'est déjà la statistique, le choléra à Paris, etc., l'insalubrité, la statistique va être partout, donc il y aurait beaucoup de choses à vous demander. Je vais quand même passer sur l'histoire des deux Indes, de Raynal, qui a été le best-seller en quelque sorte de la pensée encyclopédique, mais Peuchet en fait, toujours inlassable, il fait une continuation de l'histoire des deux Indes.
Oui. Raynal est mort en 1796 et il travaillait sur une nouvelle édition de son Histoire des deux Indes, mais il n'a pas eu le temps de la finir, et il avait légué ses manuscrits à la municipalité de Saint-Génier où il était mort, et la municipalité voulait qu'on publie une édition. Alors elle a vendu les manuscrits au libraire Coste, qui a demandé à Peuchet de bien vouloir terminer l'ouvrage de Raynal. Ce qui fait que Peuchet a fait deux tomes qui mènent l'histoire des deux Indes de 1796 à 1821. Voilà. Il a également terminé un autre manuscrit de Raynal. Raynal avait commencé une histoire analogue, mais pour l'Afrique. Alors, c'est l'histoire des établissements des Européens en Afrique septentrionale. Et Peuchet a terminé ce manuscrit. Quand on le voit, il y a à peu près un tiers de Raynal et deux tiers de Peuchet. Et ces livres sont intéressants au point de vue de la colonisation. D'abord, en ce qui concerne la France, c'est un récital de pertes. Parce que la France, à la guerre de 7 ans, a perdu le Canada. Napoléon a vendu la Louisiane. Alors, il faut vous dire que la Louisiane, en ce temps, n'était pas la Louisiane que nous connaissons, mais c'était un immense territoire, presque le tiers des États-Unis.
Oui, il allait jusqu'à Chicago. Là,
oui, que Napoléon a laissé tomber comme ça parce que ça ne l'intéressait pas. À cette époque aussi, il y avait eu la révolte de Saint-Domingue, qui est maintenant Haïti, donc la France avait perdu Saint-Domingue. C'est fait qu'il ne lui restait pas grand-chose. Il lui restait la Guyane, il lui restait l'île de la Réunion.
Et du Sénégal.
Oui, un petit peu, quelques comptoirs au Sénégal, et c'était à peu près tout. Et l'idéal, si vous voulez, de ces gens comme Peuchet, qui voulaient en finir avec l'esclavage, c'est d'avoir des colonies, mais des colonies sans esclaves, des colonies heureuses, des colonies prospères. Et le symbole de cet idéal, c'est la campagne d'Égypte de Napoléon. Parce que Napoléon arrive en Égypte avec des tas de savants, etc. Il fait ses bibliothèques et cette magnifique description de l'Égypte. Et évidemment, après, ça tourne mal, il doit quitter, mais Peuchet en garde toute la nostalgie. Et il y a eu un certain nombre de livres sur cette idée, et notamment un des collaborateurs de Peuchet dans la statistique, qui s'appelait Sonini, avait fait un magnifique livre tout illustré sur l'Égypte, avec des palmiers, enfin c'était magnifique. Et Peuchet, lui, est d'avis qu'on peut très bien avoir cette colonie, et que ce serait... très bien, parce que les gens sont compétents, le climat est bon, et il y a de l'eau, le ciel est bleu, enfin tout est magnifique. Il faut dire que cela s'inscrit dans une controverse, parce que Peuchet est économiste, mais il y a un autre économiste beaucoup plus connu, celui-là, Jean-Baptiste C., qui lui est tout à fait contre les colonies, et qui écrit « Les seules colonies valables pour un pays comme la France, ce sont des pays indépendants avec lesquels la France fait le commerce ». Et puis alors, comme nous savons, il y a eu la colonisation de l'Afrique, etc., etc.
Oui, il est... Bon, vous avez abordé rapidement, vous avez seulement cité le mot esclavage, mais Peuchet a évidemment une doctrine sur l'esclavage.
Oui, il ne l'aborde pas beaucoup parce que l'esclavage est traité dans le dictionnaire de jurisprudence, c'est-à-dire les 8 premiers volumes. Alors lui, Peuchet, se contente de dire que, ben, il ne faut pas d'esclavage, bien sûr. Et dans la continuation de Raynal, alors il le dit... beaucoup plus en détail, et il est optimiste. Il dit que la traite va cesser parce que lors du traité du Congrès de Vienne, les chefs d'État avaient pris la résolution de faire cesser la traite. Mais nous savons bien qu'elle ne cesse pas tout de suite. Mais Peuchet se dit, bon, ben, ça doit finir parce que c'est tellement affreux que ça va finir.
Je ne vais certainement pas, parce que je suis sûr que le public voit déjà l'extraordinaire variété, le véritable voyage à travers tous les problèmes, tous les paramètres de cette époque qui va de la Révolution à la Restauration. Mais il y a deux ou trois points sur lesquels je voudrais terminer avant de donner la parole au public. Il y a par exemple une rencontre de Peuchet et de Louis XVIII. Enfin, posthume d'ailleurs.
Non, Louis XVII.
Excusez-moi, bien sûr, pas le gros Louis XVIII. Louis XVII, Louis XVIII, l'enfant du temple.
Il ne lui a jamais été présenté.
Non, certes.
Eh bien, Peuchet, qui, en policier, évidemment, était très curieux, a été très intrigué par l'enfant du temple. Or, il y avait déjà, à l'époque, toute une série de jeunes gens qui se prétendaient le dauphin, les faux dauphins, si vous voulez. Alors Peuchet fait vraiment une enquête de policier, et il reprend les rapports des médecins, les rapports des fossoyeurs, et il écrit tout un rapport de police pour démontrer que le pauvre petit dauphin était bien mort au temple et qu'on l'avait enterré. Mais il ne finit pas cela, et ce qui fait qu'il y a pas mal d'erreurs dans ce qu'il dit, parce que c'est publié après sa mort, tout comme les mémoires tirées des archives de la police. D'ailleurs, Madame Peuchet, à la mort de Peuchet, a vendu tous ses papiers à un éditeur qui en a tiré le plus possible et a publié tout ce qui pouvait se lire et se vendre. Donc, il s'intéresse beaucoup à Louis XVII. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a encore maintenant, aujourd'hui, des gens qui sont convaincus que Louis XVII n'est pas mort au Temple, qu'on l'avait enlevé, qu'il avait été élevé quelque part. Il y a un immense livre de 900 pages d'un monsieur qui s'appelle Xavier de Roche, qui se sert de Peuchet, tout à fait en dehors du contexte, pour démontrer que le petit dauphin n'était pas mort.
Mais vous nous confirmez la sobre démonstration que oui, réellement, Louis XVII est mort au Temple.
Oui, mais c'est-à-dire que maintenant, récemment, avec l'ADN, on a pu prouver que cet enfant était lié par les femmes à Marie-Antoinette. On n'a jamais dit que c'était son fils, mais s'il est lié par les femmes à Marie-Antoinette, ben, la conclusion est que bien, c'était son fils et c'était le dauphin.
Bon, une dernière question, c'est sur les mémoires sur Mirabeau. Je pense que plusieurs d'entre nous peuvent avoir une certaine sympathie pour Mirabeau, qui a un côté crapule sympathique. Hein. Mais enfin, il y en a d'autres, mais Mirabeau. Et donc, il publie un mémoire sur Mirabeau, et je pense qu'il était plutôt favorable et sympathique.
En fait, on pense que Peuchet a travaillé avec Mirabeau. Et Peuchet, qui était le scribe par excellence, le polygraphe par excellence, a, dit-on, écrit certains des textes de Mirabeau. Alors, il le connaissait bien. Et dans sa bibliothèque, parce que, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de documents sur Peuchet, il y a heureusement le catalogue de sa bibliothèque. Dans sa bibliothèque, il y a énormément de discours de Mirabeau, de textes à propos de Mirabeau. Et Peuchet s'en est servi pour écrire une vie de Mirabeau en 5 volumes, qui se lit relativement facilement. Il y a pas mal de longues citations, mais enfin, c'est lisible. Et c'est le livre qui a été le plus critiqué parmi ce qu'il a fait. Parce que quand il le publie, en 1824, c'est la Restauration, et c'est une Restauration qui devient de plus en plus dure, parce que ce n'est plus Louis XVIII, mais c'est Charles X, et on l'accuse d'être beaucoup trop favorable à Mirabeau. Par contre, la famille de Mirabeau trouve qu'il trahit Mirabeau et qu'il dit des choses qui ternissent l'image du tribun.
Alors, mes dernières questions, ce serait: faut-il, il est impossible de republier Peuchet. D'abord parce que Peuchet, si je comprends bien, dès qu'il entreprend quelque chose, c'est 5 volumes ou rien. Ça lui donne un côté extrêmement sympathique. Est-ce que, si vous rêviez à une anthologie de Peuchet, est-ce qu'il y a là quelques textes qui vous paraissent particulièrement excitants?
Je republierai certainement son petit mémoire sur la police qu'il a publié en 1814, qui est une critique de la police de Napoléon, mais qui est aussi l'indication de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait une police qui respecte la vie privée, une police qui ne soit pas intrusive, si vous voulez, mais un service de renseignement qui fonctionne pour essayer d'éviter les troubles, les émeutes, etc. C'est un texte qui est pensé, qui est tout court, il n'y a pas 30 pages, et qui est tout à fait publiable. Et il y a quelques articles du dictionnaire de police et de municipalité, et il y a quelques articles de journaux, parce que Peuchet a été un journaliste très, très actif. Et il est difficile de cerner sa production parce que beaucoup d'articles étaient anonymes à l'époque. Et aussi parce qu'il y avait une censure, surtout au temps de Napoléon, qui était une censure qui en devenait ridicule. Napoléon, d'ailleurs, donnait ses instructions. Et il a donné à un journaliste qui était son conseiller secret, qui s'appelait Fiévé, une instruction qui vous donnera tout à fait l'idée. Toutes les fois, dit Napoléon, qu'il parviendra une nouvelle désagréable au gouvernement, elle ne doit pas être publiée, jusqu'à ce qu'on soit tellement sûr de la vérité qu'on ne doive plus la dire, parce qu'elle est connue de tout le monde. Ça, c'était le principe de Napoléon. Alors, tout était défendu. On ne pouvait pas parler de la royauté, On ne pouvait pas parler de l'histoire parce que c'était dangereux. Évidemment, pas des campagnes militaires parce que c'était dangereux. Mais la clé du cabinet des souverains, qui était le journal auquel travaillait Peuchet, a été suspendue simplement parce qu'il disait qu'à un certain moment, il a dit que l'industrie ne marchait pas très bien et que le commerce était difficile. Parce que, à cause des guerres, évidemment, il y avait beaucoup de douanes, il y avait des blocus, etc., etc. Et alors, ça, c'était une chose qu'on ne devait pas dire. On ne devait jamais dire ce qui allait mal. On ne pouvait reproduire que les nouvelles officielles qui paraissaient dans le moniteur. Alors, pour vous donner une idée, en 1799, il y avait 70 journaux politiques à Paris. En 1814, il y en est resté 4. Alors, la censure était difficile à porter. Oui.
Alors, bon, c'est vrai qu'il y aurait plein d'éditeurs érudits qui seraient très, très capables de reproduire en anastaltique certains textes de Peuchet. Mais, et ce sera ma dernière question, Étel Groffier, vous allez abandonner Peuchet, vous êtes parti sur d'autres projets. Alors,
oui.
Je sens que le public veut savoir, pour le prochain lancement, sur quoi vous allez travailler.
Eh bien, là, je me fais plaisir. Je recherche Voltaire et la justice pénale. Voltaire et la réforme de la justice pénale. Parce que il y a maintenant certains livres, disons, contre Voltaire. Voltaire qui représente la Révolution. Les historiens de droite commencent à trouver que Voltaire était un personnage sulfureux, pour dire le moins. Il y a d'ailleurs eu, ça c'est une parenthèse, un livre récent, qui est un véritable bref d'excommunication tout inspiré de Joseph de Maistre, et avec des phrases comme « Abandonné de Dieu, Voltaire ne connaît plus de limites ». Hein, bon, c'est le genre de choses. Mais il y a eu surtout un ouvrage qui s'intitule « C'est la faute à Voltaire », qui est un ouvrage de droit, et qui dit que Voltaire a commis une véritable imposture en représentant faussement la justice pénale de son temps. Or, mon impression, une imposture, j'ai regardé au dictionnaire, c'est quelque chose de volontaire. Or, Voltaire qu'on est venu solliciter, et Voltaire pamphlétaire, et Voltaire lutteur, n'a commis aucune imposture, il a simplement suivi son tempérament pour défendre toute une série de gens. Alors, c'est ça que je suis en train d'étudier pour le moment.
Ah, mais ce sera passionnant. Ce sera passionnant, mais nous allons vous laisser le temps de travailler à cette nouvelle œuvre. Je vais terminer en donnant la parole au public. Et si le public veut poser des questions sur Peuchet...
Est-ce que cet homme de lumière a jamais rencontré le marquis de Sade ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il ne le dit nulle part. Or, j'ai lu toutes ses œuvres et il me semble que s'il l'avait rencontré, il l'aurait dit.
Il était enfermé aussi.
Oui, mais Peuchet allait dans les prisons, etc. Peuchet allait à Bicêtre, il a inspecté Bicêtre, etc. Il aurait pu très bien rencontrer le marquis de Sade, mais
oui, qui était à Charenton et dont oui. Royer-Collard s'occupait, s'occupait parce qu'il se méfiait de la manière dont les choses étaient gérées à Charenton. Enfin, il y en a plein qui ont rencontré le marquis de Sade. Le type sur lequel j'ai travaillé, Colin Deham, a fait un rapport sur la manière dont le marquis de Sade tenait Charenton. Donc il y a des...
C'est intéressant.
Oui, approchez-vous.
Oui, j'aimerais savoir s'il a eu des rapports avec... une espèce de... Je sais pas, d'amitié avec Panckoucke, et comment il a eu ce travail, parce que c'est un honneur, si je comprends bien, d'avoir deux volumes pour lui seul.
Oui, mais il était... Il était dans l'écurie de Panckoucke, si vous voulez. Alors, comment il y est arrivé? Je crois que c'est par l'abbé Morellet. Parce qu'il a travaillé d'abord, comme tout jeune homme, avec l'abbé Morellet. Et Panckoucke circulait dans les milieux philosophiques, etc. Alors, Panckoucke a cherché des collaborateurs pour son encyclopédie méthodique. Et surtout, la jurisprudence a eu de la malchance parce que les deux premiers éditeurs du dictionnaire de jurisprudence sont morts l'un après l'autre dans les 6 mois du commencement. Alors, Pankouk a probablement pris contact avec lui et Peuchet est resté à travailler avec Pankouk parce que Pankouk possédait aussi des journaux. Comme il s'était un mania de la presse, il avait le Mercure de France, qui était un journal royaliste, et le Moniteur, qui était un journal révolutionnaire. Et Peuchet travaillait aux deux, en plus de travailler au dictionnaire.
Oui, c'est passionnant.
Tu permets. Justement, avec l'encyclopédie de Pankouk, grâce à Étel Groffier qui a acheté tous les fichiers, nous avons le projet avec Madame Groffier d'ailleurs d'une encyclopédie des révolutions sur Internet, enfin avec un modèle informatique qui permettra à 3 étages de chercher ce que l'on veut, et justement le livre de la police, on va pouvoir le publier. Et Pankouk est intéressant parce que non seulement le volume de jurisprudence, mais il y a le volume de philosophie qui a été publié par Néjon, qui était le secrétaire de Dolbach et de l'Institut, et qui était ensuite à l'Institut, l'ami de Diderot. Et il est intéressant ce dictionnaire de philosophie parce que Néjon est un matérialiste convaincu. Alors il n'admet dans son dictionnaire que les philosophes matérialistes. Par exemple, il y a l'absence remarquée de Rousseau, qui évidemment n'est pas matérialiste, mais serait discutable. Oui. Mais Pankouk est intéressant parce que c'est l'ancêtre des encyclopédies que nous connaissons. L'encyclopédie des chiens, l'encyclopédie des chats. Je veux dire, c'était par matière. Et on donnait aux spécialistes. Vous avez raison de dire que c'était un honneur, mais c'est aussi une affaire d'argent. Et le dictionnaire d'économie politique a 20 articles sur l'économie politique, vous me corrigerez, 20 articles géographie politique, 20 articles sur les États-Unis qui ont influencé les constituants français à l'époque.
Chers amis, remercions d'abord Étel Groffier de sa patience et de l'amabilité de ses réponses, et vous êtes, je crois, invité.
Oui, là, ne partez pas, il y a du vin et on me dit qu'il y a de très bonnes bouchées. Alors ne partez pas, allez au buffet. Merci.